Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce lundi 18 décembre 2023. Et on est ensemble jusqu'à 21h rien que pour vous en ce début de semaine. Chers auditrices et auditeurs, au menu de cette émission, on va parler de quoi ? On va parler de Paris qui stagne face au LOSC, justement, hier soir dans cette fameuse Ligue 1 Uber Eats. Marseille qui remonte un petit peu du côté du classement dans cette Ligue 1 Uber Eats, et sans oublier aussi les Citizens ou même les Sky Blues, les hommes de Pep Guardiola. Et bien là aussi, un peu dans le doute Manchester City en ce moment en Première Ligue, et pas que. Le 0153483000, c'est le numéro du standard. D'ailleurs, on rappelle le débat du jour. Guardiola et ses hommes en panne, selon vous, selon nous, chers auditeurs et auditrices. Rien de plus simple, vous composez le numéro du standard, le 0153483000. On parlera, c'est promis, du tirage au sort de cette fameuse Champions League édition 2023-2024 avec les huitièmes de finale aller-retour, sans oublier aussi les autres coupes européennes, notamment avec nos chers clubs français. Le 0153483000, c'est pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport qui est avec moi ce soir. On va la présenter, cette équipe. C'est parti, go Time Sport.
Time Sport. Time Sport. Il est pour parler.
Et ce soir avec moi, Soufiane et de la partie. Bonsoir Soufiane, comment ça va ?
Ah, ça va super. Hein.
Tranquillement ?
Bonjour. Ouais, tranquillement, un peu frais là. Paris, c'est bien rafraîchi, comme le PSG, c'est bien rafraîchi. Hein.
Ouais.
La température a baissé.
Le PSG, ça va là.
Ah voilà.
Ça va, du moins, ça va bien. Real Sociedad, mais attention à la Real Sociedad.
Mais je pense que
Croisset nous a dit attention à ce club-là.
Ah, c'est un tirage dangereux. Hein.
On va parler de ce tirage au sort. Eh bien oui, concernant le club de la capitale française. Tariq est avec nous. Bonsoir Tariq.
Bonsoir Bilal. Bonsoir tout le monde. Ça va.
Très bien Tariq, avec nous sur l'antenne de Beurre FM.
Il fait frais dehors, mais dans le studio il fait chaud. Donc
il fait chaud, c'est bon.
On est bien parti.
Ça va bien discuter, débattre avec vous, chers auditeurs et auditrices. Jouba est de la partie.
Bonsoir
Jouba. Comment ça va Jouba ?
Ben ça va, on est là, ça fait plaisir d'être là. Ben, malgré la fraîcheur, et il y a de l'actu, donc on va pouvoir en parler. Je suis content d'être avec vous toutes et vous tous.
Eh ben nous aussi Jouba, t'avoir avec nous, avec Boula. Bonsoir Boula, comment ça va Boula ?
Salam alaikum.
Ça va bien Boula ? Ah ben ça va tranquille, j'ai dit ça va bien mais ça veut pas dire ça. Mais bon, ça va, il y a pas
ça
de problème.
Ça va, tout va bien.
Ouais. Il est avec nous, je joue pas à Boula.
On m'a volé ma veste, chérie,
sans oublier. Ouais, ah ben ta veste, ben oui.
Je la retrouve.
Mais il faut que tu rappelles un peu le contexte.
Il est bien les vestes. Il est arrivé sans veste.
Moi, ouais, voilà.
Lui dit c'est impossible.
Non mais c'est ça. Il oublie ses vestes dans les brasseries parisiennes et après il vient de dire qu'il a oublié dans le studio de Beurre FM. On aura tout vu de toute façon avec toi Jouba. Solal est de la partie. Bonsoir Solal, comment
Bonasera
ça va?
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Très beau plateau hein, franchement ce soir. Jouba, Boula,
ah,
le
cool.
Tiki-Taka de Beurre FM avec Soufiane, pivot, latéral, tout à la fois, et Tariq.
Tu fais bien.
Nouveau, le mercato fait bien les choses au final. Tariq qui nous rejoint,
mercato.
On est content les amis.
Farid il nous a venu très très cher. Je tiens à le rappeler.
Et pas Hervé qui était prévu?
Eh ben Hervé, il est resté du côté de Poissy. Eh oui, il était bloqué du côté du centre de formation
du
Paris Saint-Germain. Non mais vraiment avec les transports ils nous écoutent en tout cas ce soir. Un petit clin d'œil à Hervé que nous aimons tant. Le Paris Saint-Germain, un but partout sur la pelouse de Lille hier soir. Paris fait fort avec ce tirage au sort, mais en tout cas encore des choses qui restent à revoir, notamment Kylian Mbappé décrié Tariq hein. Ouais.
Très
on sait
compliqué.
Pas ce qui se passe
ouais.
Alors
le souci c'est ça, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe avec Kylian Mbappé. On ne sait pas si c'est une méforme, si c'est sur le terrain qu'il est un petit peu perdu et qui se retrouve pas. Parce que moi, le truc, c'est que j'ai un souci avec Kylian Mbappé, surtout en ce début de saison-là, c'est qu'il y a un Kylian Mbappé avec l'équipe de France et il y a un Kylian avec Mbappé avec le Paris Saint-Germain.
Oui, il y en a deux.
On a l'impression que c'est deux visages complètement différents.
Oui.
Et là, ça fait 3-4 matchs qu'on a l'impression qu'il traîne son spleen et j'arrive pas trop à comprendre si c'est parce qu'il n'y arrive plus à faire des différences, s'il se reconnaît pas dans le système de jeu de Luis Enrique, ou alors si c'est
carrément
complètement autre chose, si c'est par rapport à sa prolongation de contrat, ou si c'est quelque chose de vraiment d'extra sportif. Mais le problème, c'est que ça fait un moment que ça dure et ça devient compliqué quand c'est ta tête de gondole, on va dire, et c'est ton leader de l'équipe.
Bah, c'est quand même à 16 buts. Ouais.
Sofiane, qui l'appelle Paris Saint-Germain.
C'est le meilleur buteur du championnat de France.
Meilleur buteur,
il est pas loin d'être le. Non, meilleur passeur, je pense pas.
Ouais.
Mais il est pas loin. Non, moi je pense qu'il est mal utilisé en fait. C'est juste,
mal utilisé de la part des Parisiens.
Je pense qu'il veut le mettre en neuf. Il ne met pas à sa place. On l'attend là où il ne faut pas. Et je pense que quand on a un joueur comme Kylian Mbappé aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est tout simplement le mettre dans les meilleures conditions. Et il y a un combat de coq entre les deux, j'ai l'impression, là. Il y a deux égos qui se rencontrent. Et je sais pas comment ça va se finir cette histoire, mais là, si on continue comme ça, il y en a un qui va partir et je pense que ce sera Kylian Mbappé, qui va à L'Oréal parce qu'il lui reste un an de contrat. Mais Enrique est en train de faire sa place et j'ai l'impression qu'il essaie de donner l'exemple avec Kylian Mbappé. Moi, c'est mon impression.
Au-delà de ça, c'est vraiment la machine Enrique qui tarde à prendre place. Parce qu'hier, la compo, excusez-moi, mais elle sort de nulle part. Hein. On a vu le positionnement notamment des Zaïre Emery, etc. On se dit, mais en fait, Enrique est vraiment dans la philosophie des gros clubs, c'est-à-dire qu'il fait tous les réglages pour qu'en février, il soit au rendez-vous en Ligue des Champions, quoi. C'est-à-dire, ou en tout cas, on essaye de se consoler comme ça, parce que si on prend ce match-là, mais si on prend un tas de matchs, en fait, même si Kylian Mbappé, tu fais bien de le dire, est meilleur buteur, il faudra que ça change, et notamment face à la Real Sociedad. Real Sociedad qui, attention, et sera un gros poisson aussi en Ligue des Champions, à ne pas prendre de haut, surtout pas, parce qu'ils ont fini devant l'Inter de Milan, dernier finaliste de la Ligue des Champions. Donc, il ne faut pas les prendre de haut. La Real Sociedad, il faudra qu'ils se mettent notamment les deux ailiers offensifs, que ça soit Colomwani ou Dembélé, il faudra vraiment qu'il se réveille en deuxième partie de saison, et j'ai l'impression que c'est surtout sur ça qu'il va s'appuyer. La Real Sociedad d'ailleurs, qui a connu la Ligue des Champions en 2003-2004, qui avait été en 8e, et qui avait connu aussi en 2013-2014 avec l'élimination de Lyon d'ailleurs, si vous vous rappelez, avec un certain Griezmann avait mis un superbe retourné. Donc la dernière fois qu'ils avaient goûté à la Ligue des Champions, la Real Sociedad, c'était à ce moment-là, 2013-2014. Donc voilà, la Real Sociedad, il faudra vraiment que le moteur soit vraiment chaud à ce moment-là, en plein hiver, et donc il faudra pas se manquer.
Après, Juba, Real Sociedad, c'est clairement un des meilleurs tirages. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tomber sur ce genre de club.
Ouais, mais attention. On va en arriver justement sur le tirage au sort.
On peut dire tout ce qu'on veut, mine de rien, c'est pas les têtes d'affiche qu'on a pu voir, comme par exemple des gros chocs avec Atlético Inter Milan.
Les têtes d'affiche n'ont pas posé de problème au Paris Saint-Germain. C'est bien les hors-têtes d'affiche qui ont des fois posé problème au Paris Saint-Germain.
Attention,
ces clubs-là qu'on met rapidement de côté.
En tout cas, ça reste mon avis. Je pense que je suis pas seul à me réjouir de ce tirage-là. La Real Sociedad, on a beaucoup parlé au Real Madrid qui commence par Real aussi. C'est totalement différent. Je préfère largement tomber sur les blancs et bleus que les meringues. Excusez-moi. Mais aussi, pour revenir au PSG, je trouve que franchement, il y a une petite hypocrisie, parce que quand Manchester City enchaîne 3 matchs nuls, ils sont pas critiqués, les gars, ils font 3 matchs nuls face à des équipes.
En France, ils sont plus critiqués
même si c'est la BPL, la Barclays Premier League, etc.
Là, ils sont beaucoup critiqués, les Mancuniens.
Là où par contre, je peux donner raison aux gens par rapport à Mbappé, c'est que voilà, son concurrent direct, monsieur Erling Haaland, le Norvégien, lui, au lieu de mettre 16 buts, il en met 19 en BPL. Mais par rapport au nombre là de défaites ou de matchs nuls, moi je vais pas me mettre à pleurer parce que le PSG a fait un match nul contre Lille. Quand je vois nos amis mancuniens qui ont galéré pendant trois matchs, tout simplement trois week-ends,
qui sont encore en tête,
à essayer de
s'imposer. Ils sont fustigés, les Manchester City. Hein.
Dis-moi tout.
Le club est fustigé. Hein.
Pourquoi donc?
Pourquoi on va en parler après, je crois.
Avec les résultats.
C'est beaucoup plus sévère.
Je voulais revenir sur Kylian Mbappé. Bon, parce que là, je pense que vous êtes à Manchester United, je sais pas. Mais bon, Kylian Mbappé, son problème, c'est pas. Moi, je pense que c'est plus la qualité qu'il y a autour de lui. Il a pas la même qualité que quand t'as Neymar ou t'as Messi. Je pense que au niveau marquage, il avait plus de liberté quand il y avait ces joueurs-là. Aujourd'hui, les joueurs, surtout un mec comme Colomani ou Barcola, c'est pas des joueurs du niveau d'Mbappé. Et aujourd'hui, ces joueurs-là, Kylian a voulu qu'il soit à ses côtés, mais regarde, ils répondent pas présents dans la qualité. Heureusement qu'il y a un coach qui arrive à avoir une intelligence de jeu au niveau tactique. Moi, ce que je regarde, c'est qu'aujourd'hui, il est qualifié pour la Ligue des Champions. Il est premier au classement.
C'est le minimum avec cet effectif.
Pour moi, c'est pas un effectif. À part la surprise du chef, ça a été le petit Warren qui fait la différence. C'est un gamin de 17 ans qui les qualifie pour la Ligue des Champions. Après, je crois qu'il faut pas se leurrer. PSG avec Campos, c'est plus des coûts à faire sur une plus-value de joueurs.
Surtout du copinage avec les agents, personnellement, un joueur comme
Ramos, je pense qu'on lui a pas donné vraiment le temps de jeu. Je pense que le coach il est un petit peu emmerdé pour Colomani qu'ils ont payé 90 millions.
Attends, avant de me répondre à ma question,
moi tout ce que je sais c'est que c'est des joueurs tu prends Colomani, c'est un joueur qui vaut 90 millions, c'est sûr que c'est pas évident de le mettre sur le banc, et aujourd'hui le coach il est embêté entre Ramos
Ramos, combien de temps de jeu que Colomani. Les seuls chiffres que j'ai, c'est qu'il a été plus efficace par rapport au temps de jeu qu'il a. Je te promets, j'avais la même idée reçue que toi.
Ouais. Et j'ai regardé ce week-end, Ramos a plus de temps de jeu que Colomani. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de continuité en fait. Moi, qui est le responsable? Et c'est pour ça que je te dis que peut-être
avec Sofiane.
Mbappé aussi, il n'est pas mis en valeur. Tu as peut-être raison.
C'est sûr.
Mais le problème, c'est Luis Enrique.
Je comprends pas quand vous dites qu'il n'est pas mis en valeur. Vous vous rendez compte, c'est le joueur. Et aujourd'hui, il faut une équipe autour de lui. Oui. Et tu dis qu'il n'est pas mis en valeur. Mais c'est pas un neuf.
Hier, en conférence de presse, il disait qu'il était totalement libre sur le terrain.
Pour moi, c'est pas un avant-centre, c'est un joueur de couloir. Maintenant, s'il veut jouer neuf, il ne peut pas jouer neuf. Il n'est pas assez technique pour garder le ballon comme Ramos y fait.
Pourquoi alors Enrique le met
avant-centre? Je trouve que Ramos, il va plus avec le jeu d'Mbappé que Colomani.
Parce qu'attends, Boulal, tu dis que dernier match, il était neuf, non? C'est moi qui ai pété les plombs.
Il était neuf, tu vois bien que ça va pas.
C'est ce que je te dis, on met pas Kylian Mbappé dans les meilleures conditions.
Parce que psychologiquement il est ailleurs. Il n'est pas dans le foot. En ce moment il n'est pas dans le foot. Quand il est dans le foot, tu sais très bien qu'il casse tout.
Ça va, il n'est pas dans le foot, il marque 16 buts.
Pour revenir sur l'info, désolé Darek, merci pour ta stage. T'as stade déjà d'avoir comparé Colomani et Gonzalo Ramos au poste pour poste. Mais moi j'ai une question pour vous les gars. Est-ce que vous pensez que si Ramos avait eu autant de temps de jeu que Zaïre Emery, il aurait mis autant de buts que lui par exemple?
Mais c'est pas, c'est pas
le même poste. En tout cas c'est un vrai buteur.
Parce que Zaïre Emery mine de rien est plus favorisé que Ramos.
C'est encore pire.
C'est un milieu qui marque plus de buts qu'un attaquant. Et justement, est-ce que Gonzalo Ramos aurait la chance de mettre autant de buts que Zaïre Emery?
Tous les jeunes qui ont son âge, l'avantage qu'il a c'est que c'est Campos, il a tout fait pour le mettre avec Mendes. Lui aujourd'hui, quand Galtier est arrivé, il l'a mis dans le groupe pro. Ça, c'était une philosophie de travail et de par rapport à, pour le mettre avec Mendes. Tout est réuni pour que qu'il fasse une grosse carrière.
Non, mais le talent il est là.
Je remercie Campos de faire ce qu'il a mis en place. Des joueurs comme Warren, il y en a plein dans le championnat de France.
En tout cas, le PSG
devra rehausser son niveau de jeu. La différence, c'est que la différence, t'as un mec comme la qualité qu'il y a au PSG, c'est que t'as un mec comme Campos. Il sent la
preuve.
Campos,
quand il était à Lille, Campos, m'arrête de faire croire que Campos, c'est le mec qui a mis Galtier pour ton info. Donc on peut pas prétendre être un bon président quand on a perdu un match avec Galtier.
Cherche ton blouson. Tout ce que je sais, c'est que
il a fait perdre un an de football au supporter. Avec Galtier.
Et à Lille, il a fait quoi?
Il a été champion de France.
Alors,
tu peux dire ce que tu veux. Avec des joueurs de plus-value.
Et oui, mais c'est
joueurs de plus-value.
Quelle valeur ça a, champion de France? Mais ça n'a pas tant de valeur que ça. Pour le PSG, je parle.
Bah, ils ont vendu Nicolas Pépé à 80 millions, ça équilibre le budget.
Tu dis quelle valeur ça
a pour le PSG? C'est un fait. Au PSG, c'est même pas un objectif.
Par contre, là où je peux le rejoindre, vous n'avez pas l'impression que l'histoire elle est en train de se répéter un petit peu.
Aussi.
Parce que le début de saison dernière, on était très content du Paris Saint-Germain parce que ça jouait, ça collait des gros scores à n'importe quelle équipe avant la Coupe du Monde. Et là, on a l'impression que c'est un petit peu en train de s'effriter. On a l'impression que Luis Enrique est en train de faire passer des messages comme quoi il n'est pas très satisfait de son milieu de terrain, comme quoi peut-être il lui faudrait des recrues.
Il va y avoir du recrue.
C'est un petit peu ce qu'on disait aussi la saison dernière. On disait qu'il y avait un souci en termes de profil de
recrutement. Le milieu de terrain, moi, je trouve la plus grosse erreur du PSG, la vérité, c'est d'avoir laissé partir Verratti.
Non,
j'aurais aimé voir Verratti avec Luis Enrique. Non, mais
c'est pour que si Verratti serait resté, Warren il jouerait pas. C'est pour ça qu'il est parti. Et la différence, la stratégie, c'est qu'aujourd'hui t'as un joueur qui est parti, qui avait plus de valeur marchande, et t'en as un qui est arrivé qui a 17 ans aujourd'hui qui vaut entre 60
football,
et 80 millions.
La plus grosse erreur aujourd'hui, PSG, parce que c'est d'avoir pris confiance à Jorge Mendes tout seul, d'avoir fait un mercato autour d'un agent de football. C'est pas du football, ça. Ça, c'est de la magouille sur le dos des supporters. Avoir tout fait reposer sur Jorge Mendes, elle est là l'erreur au milieu de terrain. Parce que faire venir Ugarte, faire venir tous ces gens qui dépendent uniquement de Jorge Mendes, elle est là l'erreur au PSG. C'est le copinage entre Luis Campos, Jorge Mendes et puis tous ces trucs-là en coulisses.
Je suis pas d'accord avec Sofiane. Moi, Marco Verratti, ça faisait longtemps qu'il était out. Moi, un joueur qu'on aurait dû garder déjà depuis deux ans, c'est Javi Simon. Javi Simon,
il a mis le doigt où il fallait. Aujourd'hui, tu regardes, quand il parle de Javi Simon, le mec, il pète tout. Moi, il pète tout, il le faut signer au PSG et il le reprête à Leipzig. Alors je pense que moi je prends pas Barcola.
Là, la raison.
Moi j'ai Javi Simon, je le garde dans le groupe. Oui. Là je suis d'accord avec cela.
D'un côté,
je reviens à ce qu'il dit Jouba. L'avantage de Mendes, c'est qu'il a pu, ils ont pu faire leur mayonnaise avec le joueur, avec Javi Simon, et le mettre à Leipzig. Et comme ça, ça leur permet aussi de refaire un business avec Mendes, Barcola.
Ça,
parce
c'est
que Barcola, je l'avais jamais
pris, moi. Ça, c'est pas du foot. Je suis désolé, mais après, quand c'est les autres équipes qui font des choses intelligentes comme ça, parce que moi, je trouve ça très intelligent.
Oui.
Le fait qu'il est parti
s'aguerrir. Il est parti s'aguerrir de quoi? C'est comme il a mis de
là, tu sais que tu vas récupérer limite un joueur fini. La saison prochaine, tu vas récupérer Xavi Simons. Ça va être un joueur fini avec une certaine expérience. Alors peut-être que.
Impossible.
Quand c'est les autres équipes qui font ça, quand c'est le Real Madrid qui prête ses petits jeunes à d'autres clubs pour qu'ils s'aguerrissent et qu'il les récupère
à l'époque.
On dit que c'est très bien, mais quand c'est le Paris Saint-Germain, on dit que c'est mauvais parce que
c'est pas bon. On va revenir sur le Paris Saint-Germain aussi, sur l'Olympique de Marseille.
Quand tu parles de jeunes, entre Xavi Simon et Barcola,
on s'écoute plus. Merci, à de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Allez, de retour pour la seconde partie de cette émission qui est Time Sport, 20h et 18 minutes, le 01 53 48 3000, pour réagir avec Soufiane, Tariq, sans oublier Jouba et aussi Boula. Voilà, on parlait du Paris Saint-Germain, de cette fameuse Champions League. On rappelle, 8e de finale. Ça sera justement le 14 février, le match aller du côté de Paris, et le 5 mars, c'est le retour en terre basque, en Espagne, justement, face, on le rappelle, à la Real Sociedad. On part justement avec le second gros dossier de cette émission.
Time Sport. La parole des sociaux.
Avant de faire plaisir aux Marseillaises et aux Marseillais, on va revenir sur le Paris Saint-Germain pour cette édition de la Champions League 2023-2024. Bon tirage, on le disait. Sola, elle était heureux aussi, Tariq.
Moi, je pense que c'est un bon tirage, on va pas se mentir. Ça reste l'équipe la moins expérimentée de ce qu'on pouvait tirer.
C'est sûr.
Ça reste le plus petit club parce que derrière t'avais des Arsenal, du Barça, du Real Madrid,
Copenhague,
du Bayern. Non, on pouvait pas les tirer. Copenhague, ils étaient pas.
Pas Copenhague. Non, bref, ouais, il faut.
Après, c'est une équipe en tout cas qu'on doit prendre au sérieux, surtout pas la prendre de haut. Il y a cette chose-là. Moi, j'ai l'impression quand même que Luis Enrique a cette petite tendance peut-être à prendre de haut certaines équipes et même la Ligue 1.
Comme Newcastle.
Comme Newcastle, même les supporters en général, on va pas se mentir, les supporters parisiens en général.
Comme Newcastle, PSG sont qualifiés, Newcastle, ils sont pas qualifiés.
Oui, mais bon,
ils ont perdu à l'aller. Aujourd'hui, le coach, c'est lui qui a le dernier mot.
Bien sûr, mais en tout cas, le match qu'on a fait à Saint James Park, personne ne pouvait s'attendre à ce qu'on prenne, à ce que le Paris Saint-Germain prenne une déculottée comme ça. Ah, et moi, la composition qu'il avait mis contre Newcastle, pour moi, il avait pris de haut cette équipe-là. Et en tout cas, faut vraiment prendre ce tirage très au sérieux, parce que si tu te fais éliminer contre la Real Sociedad,
ouais, là, c'est pas bon.
Je pense que ouais, là, ça
Sofiane,
reste,
c'est pas bon.
Ça risque d'être
c'est
vraiment.
Après, là, c'est un truc qu'il faut pas. Il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que
ils ont fini devant l'Inter.
Quand tu regardes Aston Villa, comment le club il est géré, tous les clubs qui sont gérés par des vrais entraîneurs, des managers généraux, c'est eux qui commandent les rentrées et les sorties. Le problème, c'est qu'en France, le coach, il n'est pas, à un moment donné, il n'a pas les pouvoirs à 100%. Aujourd'hui, il se trouve dans une situation où que c'est pas évident. C'est-à-dire que dans les choix de joueurs, à un moment donné, quand il fait venir, tu fais venir Ramos, il fait venir Barcola. Comment un mec comme Ramos, il peut être.
Il y a 5 minutes, tu l'as censé, Luis Campos, Boulin. Hein? Il y a 5 minutes, tu disais que du bien de Luis Campos.
Mais
non.
Entre vas-y, faire venir et la stratégie qu'il a au niveau de directeur sportif, c'est un bon. Mais le problème, c'est qu'il y a encore les Qataris.
C'est une super chose.
Non. C'est les Qataris aujourd'hui. Non, pour moi, les Qataris, ils ne laissent pas travailler
c'est fini,
le coach.
Pour moi, les Qataris, c'est eux, à un moment donné, ils s'y misteront dans la gestion. Ça fait six mois qu'il est entraîneur du PSG, franchement. Ça va, pour l'instant, je trouve que c'est l'entraîneur qui s'en s'en est très bien sorti, les gars.
Mais merci.
Il y a eu combien de transferts, combien de départs, combien d'arrivées au PSG cette année-là?
Que des mouvements. C'est pas évident de travailler pour un entraîneur.
Il finit premier, il arrive en quart ou en 16e, je sais plus, je me perds avec des 8e, en 8e de finale de la Champions League. Il est quand même premier du championnat, hein, on est d'accord. Ouais. Aujourd'hui, je suis désolé, l'entraîneur, franchement, Luis Enrique, il a bien géré le move.
Non, mais il y a des questionnements à se poser quand
alors,
même. Il y a des questionnements. Moi, les questionnements que je me pose, c'est en fait, il y a un fossé en fait déjà entre le match contre Marseille, est-ce que le Paris Saint-Germain vit actuellement? J'ai l'impression qu'il y avait une union sacrée en début de saison et que tout ça s'est un petit peu effrité. T'avais un discours de Luis Enrique à la fin du mercato qui disait qu'il était ultra satisfait de son mercato, qu'il voulait personne d'autre au milieu de terrain. Même après le départ de Verratti après le mois de septembre, il était très satisfait. Pour lui, il lui fallait personne. Et là, t'as l'impression qu'il est un petit peu chafouin à chaque fois en conférence de presse. Il sourit jamais, il est toujours énervé et il te fait passer des messages comme quoi peut-être maintenant qu'il lui faudrait des renforts d'expérience alors qu'il n'avait pas du tout ce discours-là.
Je pense qu'il a
il te vendait aussi une symbiose avec Luis Campos. Moi, j'ai pas l'impression que quand quelqu'un il est pas satisfait du mercato, il te dit que peut-être il a des besoins pour ce mercato d'hiver. Il te fait passer ces messages-là. Moi, je trouve ça un petit peu bizarre.
Que tu es comme moi, on se fait berner à chaque fois. Mais moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, c'est que waouh, la communication. Je pense qu'il emploie une communication pour mettre un petit coup de pression, pour recruter un joueur, je sais pas.
Au bout de 4 mois.
Mais
au bout de 4 mois, il me fait penser à Tuchel, mais après 3 ans. Et là, il me fait penser à ça, en fait. Il est aigri en conférence de presse.
Mais parce que là, il est en position de force.
Peut-être c'est le temps à Paris. Hein.
Tariq, pour revenir sur ce que tu dis, carrément, on dirait que Luis Enrique, il vient de faire un quinquennat. Mais bon, après, blague à part. Là, on a justement les amis Alpha qui nous envoient un message directement sur le compte Beurre FM officiel. Vous pouvez réagir au téléphone, qui nous demande quels sont donc les autres matchs de Ligue des Champions. Bon, je voulais vous les énumérer aussi.
Solal, tu les as ?
Ça
on peut les balancer
aussi, voilà, de allez, vous faire réagir sur les grosses affiches qu'il y a.
De Copenhague.
Copenhague jouera contre Manchester City. Voilà, Sarah aussi, une auditrice qui vient de Copenhague. On lui passe le bonjour au Danemark.
Voilà,
Copenhague City, ce sera le match à pas manquer, ainsi que donc Leipzig, Real Madrid, grosse affiche aussi comme le Bayern et la Lazio. À ne pas manquer aussi le PS Eindhoven qui va jouer contre le BVB, le Borussia Dortmund. Dans la deuxième partie, on aura l'Atlético, comme on l'a dit tout à l'heure, qui va affronter donc l'ex-finaliste de la Ligue des Champions de l'année dernière, qui est l'Inter Milan, suivi donc du PSG Real Sociedad, dont on parle forcément. Barça, Naples, la avant-dernière affiche. Et pour la dernière affiche, ce sera FC Porto, donc qui va jouer contre Arsenal, le FC Porto.
Voilà, les
il y avait quand même de quoi faire mieux, quoi.
Donc, c'est pas des affiches extraordinaires. Hein.
Ouais.
Ah non, pour moi c'est pas des affiches. À part le PSG Real Sociedad, parce que les
joueurs parlent de Real Sociedad. Sachez que Real Sociedad,
ça fait 5 ans qui tourne dans les 4 premières
équipes
d'Espagne. Et c'est quand même un club qui tourne très très bien depuis 5 ans et qui est très bien géré.
Ça fait depuis 2003-2004 la saison qu'ils n'ont pas été en 8e à la Real Sociedad. Arrêtons d'encenser des clubs qui n'ont pas de raison d'être encensés. La Real Sociedad, c'est un club moyen qui est 7e en championnat d'Espagne. Enfin, je veux dire, ok, ils sont bons, ils ont fini devant l'Inter Milan, mais ça reste une surprise.
Je sais pas, t'es contradictoire. Alors, quand tu vois le Real Sociedad, ils sont en Ligue des Champions. Ils sont
ça reste un petit poussé.
Après, quand tu peux pas, à un moment donné, moi je trouve que c'est des bons clubs.
Ça fait depuis 2004 qu'ils ont pas été en Ligue 1.
La Real Sociedad, c'est pas le Real de Madrid, c'est pas l'Inter de Milan, c'est pas le Bayern de Munich, c'est pas Manchester City, c'est pas le PSG quand même.
Moi, tout ce que je sais, c'est que vous parlez des autres clubs. Moi, ce que je regarde quand je vois Aston Villa taper City et derrière taper Arsenal, je trouve qu'il y a des gens qui savent travailler dans le milieu et qui sont cohérents. Là, le problème, c'est que le football. Le football, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui. Le mec qui doit construire un club de football, c'est l'entraîneur. Et le problème, c'est que tu prends Paris, il n'a pas tous les pouvoirs.
C'est fini, Saboula, aujourd'hui, ça a changé.
Ah non, c'est
ça.
Pas fini. Quand tu regardes Aston Villa, c'est pas fini. Les Anglais, ils ont l'intelligence d'avoir un entraîneur, on l'appelle le manager général.
Oui, le problème, c'est Luis Campos, clairement.
C'est le football anglais.
Non, c'est pas un problème. C'est que, en plus de ça, il est même pas
salarié.
Campos, il est même pas salarié du PSG. Il a une société de conseil. Et c'est lui qui conseille le PSG.
Ça te pose pas de problème.
Après, ils font ce qu'ils veulent.
On termine avec le Paris Saint-Germain.
Moi, je voudrais bien être à sa place, en tout cas.
Par rapport à la LDC, je trouve que les gars, vous minimisez un peu le mérite qu'ont ces équipes-là. Ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Et après, j'ai une finir. Et après, quand t'as des Leipzig qui vont gagner la BPL, tout le monde s'extasie. Ah, j'adore ce club. J'ai toujours. Non, les gars, faut leur donner le mérite qui mérite, tout simplement.
Allez, on donne de la force à ces clubs. Justement, c'est Marseille qui remporte face à Clermont Foot. Oui, de plus en plus, Marseille qui remonte un peu.
Ah, Marseille, c'est extraordinaire. Ouais.
Marseille, justement.
Ça revient d'où ? Ils ont coulé.
Ouais,
ils ont
sixième au classement.
Au fond du trou.
Paris premier. Hein.
Et là, ils se retrouvent
à
4 points du podium. À 4 points du podium. Donc, je trouve que Marseille, c'est l'intelligence de l'entraîneur de changer de tactique. Tout simplement, et d'accepter qu'il faut changer de tactique, et ça a payé. Maintenant, Aubameyang, on l'a tous critiqué, ça devient le joueur phare de l'Olympique de Marseille. Et franchement, ce club-là, il revient de très loin. Après, je sais pas jusqu'où ça va aller, mais en tout cas, ils ont pas perdu un match à domicile.
Ouais.
Faut pas se leurrer, c'est pas Marseille, c'est pas extraordinaire. Moi, j'aime bien Marseille. Quand je regarde la qualité des joueurs, aujourd'hui t'es dans le championnat de France. On n'a jamais eu un championnat aussi faible.
J'ai pas dit que l'Olympique était extraordinaire. Je te dis d'où il vient. Ils ont changé d'entraîneur. Ils étaient au fond du trou. Ils sont remontés là. Il y a quelque chose à jouer cette année. Je trouve ça extraordinaire.
Le truc, l'argument du championnat très faible. Peut-être où je peux te rejoindre, ça, en termes de spectacle. Ça, il n'y a pas de souci. On s'ennuie un petit peu. Mais on est les premiers à dire que pour jauger le niveau d'un championnat, c'est la Coupe d'Europe. Et là, pour la première fois, t'as toutes les équipes qui ont joué cette Coupe d'Europe-là, qui vont au second tour. Qui dépassent les phases de poule. Donc, faut savoir ce qu'on veut dans nos arguments. Merci. Des fois, on va te dire ça pour allumer la Ligue 1. Et maintenant qu'une fois que les clubs français performent en Coupe d'Europe, on va dire non, c'est un championnat qui
est tombé. Donetsk
en 16e de finale qui a été repêché de la Ligue des Champions. Donc donc ça il faut le noter, c'est les repêchés de la Ligue
des Champions. Championnat de France.
Oui, mais
quand tu regardes la qualité de Rennes au niveau joueur, je pense qu'ils n'ont pas eu l'entraîneur au départ pour faire un bon championnat. Aujourd'hui, quand tu regardes, c'est vraiment un problème d'entraîneur. Après, aujourd'hui, tu prends Gattuso. Gattuso, il est arrivé. Il est arrivé avec un effectif où, à un moment donné, il est en train de faire un miracle. Comme il a dit, je suis pas là pour faire du spectacle, je suis là pour prendre 2 points. Ben, la preuve, c'est lui-même qui le dit. Sa confiance, c'était le côté défensif de l'OM. Après, moi, j'aime bien l'OM, mais les joueurs qui avaient l'OM, c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui.
Aubameyang,
j'ai connu l'OM. j'ai connu l'OM. Moi, le football à l'OM, pour moi, c'est pas ces joueurs-là, c'est tout.
J'ai une question, Boula, pour toi. Tu dis que la Ligue 1 s'est affaiblie, mais elle s'est affaiblie sur quels critères? Parce que tu peux pas dire la Ligue 1 s'est affaiblie.
En termes de buts, la Ligue 1, en Europe, est une honte intersidérale.
En termes de buts, on est passé loin. On est passé loin des autres championnats.
Il y a une faiblesse en Ligue 1 qui est catastrophique, cataclysmique. T'enchaînes 3 défaites, 3 victoires de rang. Tu peux passer de la 18e place au podium. Non, mais j'exagère à peine. C'est-à-dire qu'il y a aucun club qui fait des séries. Il y a aucune constance en Ligue 1. C'est une catastrophe, c'est cataclysmique la Ligue 1.
Quand je regarde
la Ligue 1, on est dans notre ethnocentrisme, tout ce que tu veux. Ok, c'est beau, c'est la France, etc. On aime. Mais excuse-moi, la Ligue 1, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est des purges par moment.
Quand tu regardes
le match de vendredi, c'est une purge. Le match du samedi, c'est une purge. Et par chance, des fois, t'as un match bien le dimanche soir à 21h. Mais sinon, c'est une purge la Ligue 1. C'est une catastrophe sur tous les plans.
En termes de spectacle, c'est plus compliqué que certains autres championnats. Mais je suis désolé, le niveau, il nivelle vers le bas, mais dans le foot en général.
Ouais.
Moi, je prends plus autant de plaisir en regardant la Liga, je prends plus autant de plaisir en regardant la Première Ligue, je prends plus autant de plaisir en regardant le football en général, même le football de sélection. Donc ça, c'est quelque chose de général. Après, oui, d'accord, il y a moins de spectacles, il y a moins de spectacles qu'en Première Ligue, ça je te l'accorde, mais je suis pas convaincu qu'en regardant la Serie A non plus, tu t'extasies ou tu te lèves de ta chaise en regardant la Serie A. Moi, je veux bien qu'on allume la Liga.
C'est plus de choc quand même,
mais il faut se rendre compte que c'est un sentiment général, c'est dans le football en général, ça concerne pas que la Ligue 1.
Ah, mais quand tu regardes la victoire du Havre contre Nice, tu regardes aujourd'hui Nice, qu'on voyait vraiment qui allait toucher peut-être les trois premières places. Aujourd'hui, ils se font taper par le Havre. Strasbourg, ils vont taper l'Orient à l'Orient.
Et quand
tu regardes vraiment le championnat, tu te dis dans quel championnat ils jouent. Après,
c'est malheureux
à dire, mais c'est un petit championnat. Et je crois que c'est le championnat le plus faible que j'ai connu dans le championnat.
Ah, c'est une catastrophe.
Et moi, c'est le dossier le plus faible que j'ai connu de toutes les émissions de Talisman. On partait de l'Olympique de Marseille. On a atterri dans les 35 heures version British avec Margaret Thatcher, avec toi Boula, et le système des managers généraux et des entraîneurs français, au lieu de parler des clubs qualifiés français avec, je le rappelle, pour les auditeurs et les auditrices. On a Farid qui nous écoute, il m'a dit: Bilal, tu peux rappeler s'il te plaît les qualifiés en Europa League? On va lui rappeler à Farid. Lens qui affrontera Fribourg
en 16e.
Tandis que l'Olympique de Marseille défiera le Shakhtar Donetsk
en 16e.
Voilà, on le sait bien, Jouba. T'inquiète pas.
Il y a des clubs qui qualifient directement.
Oui, mais t'inquiète pas. Mais ça, on veut pas le savoir. C'est l'Europa League. Je cite juste les clubs de l'Europa League. Rennes qui sera opposé à l'AC Milan et les Toulousains au Benfica. Voilà. Ça, c'est pour les clubs de l'Europa League. Voilà.
Il faut rappeler quelque chose. Si tu parles de l'Europa League, je préfère à la rigueur un bon championnat du championnat de France, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'Europa League, ce qui m'intéresse, c'est le championnat français.
Oui,
là, on parle du championnat français. Aujourd'hui, quand tu regardes les qualifiés, c'est bien, mais quand regarde dans quel état les clubs y sont. Au niveau effectif, regarde dans quel état ils sont et regarde les résultats ce week-end. Ça a été catastrophique ce week-end. Tu prends Reims, ils doivent gagner contre Lens. Ils doivent gagner contre Lens. À l'arrivée, tu regardes, tout le monde se colle. Au niveau des points, tout le monde se colle.
Bah oui.
Alors,
tu passes de la
18e
à la 3e place. Non, mais je disais 16e parce qu'il faut le rappeler, parce qu'il y a des clubs qui se sont qualifiés en première position de leur groupe qui vont jouer directement les 8e, et les 2e de groupe affronteront ceux qui viennent de la Ligue des Champions, les 3e de groupe.
Ouais.
Donc, l'OM, notamment, que tu as cité fort bien, Bilal, va jouer en 16e, tout comme Lens qui va jouer en 16e, tandis que d'autres clubs qui ont fini premier de leur groupe, notamment comme Rennes, je crois, qui vont jouer directement en 8e de finale.
C'est ça,
de l'Europa League.
On rappelle. Mais
c'est pour ça qu'on n'a pas des grands coachs en France. C'est pourquoi. C'est parce que, à un moment donné, dans la gestion des grands coachs en France, c'est géré par les présidents ou les directeurs sportifs. Et le problème, il vient plus de là en France. C'est pour ça qu'on n'a pas des grands coachs français.
Bien sûr.
Ils ont pas une philosophie, ils peuvent pas mettre une philosophie en place de travail pour pouvoir travailler comme eux ils entendent le football.
On l'aura compris. Boula a beaucoup de noms à donner ce soir, notamment des coachs français. Merci Boula du temps du grand Well. Tariq, c'est pour toi ça. Avec ce fameux retourné acrobatique historique d'Antoine Griezmann à Gerland, l'Olympique Lyonnais avait perdu 2-0 face à la Real Sociedad. Et là, c'est des supporters lyonnais, en la personne de Benji et aussi Farid, qui nous le rappelle à nous sur l'antenne de BorFM. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et oui, Jouba qui a perdu sa veste, si vous l'avez retrouvé, si vous voulez.
Il est venu,
il est venu sans sa veste. Ben, boulet de la partie pour cette dernière partie.
Et lui, il est parti chercher
son veste. On a Soufiane aussi avec ce bon chocolat.
J'espère qu'il a
fait bien. Il a pas perdu ça. Plaisir à Vanessa et à Solal. Oui, Boula. Et avec Tarek aussi, qui est là ce soir. Le 01-53-48-3000, voilà. Tu es bien là, chaque oui. Tardonesse, c'est bien ça. Hein
ouais, chaque ouais. Tardonesse.
Tu restes bien dans le football.
Ça
hein
va
tu
être intéressant.
Pas dans la géopole,
ouais, bien sûr, parce qu'on sait qu'il y a aussi un contexte géopolitique, donc oui. Il va jouer le match va se jouer en terrain neutre. En l'occurrence, à la suite de ce qui se passe en Ukraine, Donetsk et tout ce qui se passe avec la Russie. Donc voilà, Donetsk, c'est plutôt un club qu'il faudra bien apprivoiser parce qu'on sait qu'ils redescendent de Ligue des Champions. Donc, mais l'OM attention. A une carte à jouer, je pense aussi dans cette rencontre, c'est-à-dire qu'ils doivent aller faire quelque chose face à Donetsk, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller juste pour faire figuration. Et le ton sera donné. C'est pas des individualités fortes. Hein. Donetsk, c'est pas un championnat qu'on connaît très bien, le championnat ukrainien, etc. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faudra aller chercher, quoi, cette victoire face
ils
à Donetsk.
Ils n'ont pas le choix. Tout à fait, Jouba. En tout cas, ouais. Tous nos amis marseillais, info à prendre et surtout rendez-vous à prendre. Alors avec Time Sport, forcément, ce sera le 15-02 pour le pré-match de Shakhtar Donetsk qui joue contre Marseille au Wolfspark Stadion. Donc, le 15 février, excusez-moi. Et dans la foulée, le 22 février, bah, ça se passera forcément au Parc des Princes. Non, je rigole, au Vélodrome.
Ben voilà, ça suit. Hein. Ça change.
C'est en Allemagne, alors, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
En Allemagne.
Ouais.
Bah ouais, moi le Shakhtar, après j'ai cette image là, j'ai pas de statistiques précises ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est toujours un club qui a fait du mal au club français avec ses Brésiliens, etc. J'ai toujours cette impression là. Et je pense, malgré le fait qu'ils soient en guerre, pas en guerre ou quoi, faudra vraiment se méfier de cette équipe là. Et faudra pas la prendre à la légère. En Ligue 1, Marseille, je pense qui vont terminer sur le podium, en tout cas qui vont se qualifier, qui vont être européens, qui vont être dans les quatre premiers. Ça, je pense qu'il y aura pas de souci. Mais pour la Ligue Europa, faudra vraiment, vraiment la prendre au sérieux. Et Shakhtar, moi, je le prendrai vraiment, vraiment au sérieux, même s'il y a les trucs extra sportifs, etc. C'est,
mais ça peut
c'est
aller loin. Attention. Je pense qu'ils peuvent aller loin en UEFA là. Pour la bonne et simple raison qu'il y a un truc qui se passe à Marseille. Je parle pas de la technique ou de tout ce que vous voulez. C'est l'émotion. On a un entraîneur émotionnel. On est dans une ville émotionnelle. Et donc le Vélodrome, c'est un endroit émotionnel. Et quand l'émotion rencontre l'émotion, il se passe des belles choses.
Non,
moi, je me souviens juste d'un. J'ai déjà dit ici, l'entraîneur du Maroc, Walid, qui disait que pour entraîner le Maroc, il faut faire. Il y a une façon de parler aux joueurs.
Ouais, parce c'est que, sûr qu'on rajoute, c'est dans l'émotion.
C'est vrai, parce même que les joueurs africains et l'Afrique du Nord aussi, ils sont des joueurs émotionnels. Il faut savoir leur parler.
Ouais.
Et là, on a un gars tout autre, tu le vois à la fin du match, il est là, il fait la bise à tout le monde, ce côté italien. Ouais. Bravo, 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 la 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 la. Et je pense que ça va ramener une force encore plus.
Non, je ne suis pas d'accord. L'émotion là, l'émotion tu la gardes pour les supporters avant le match ou après le match à la limite. Quand tu rentres sur le terrain, il n'y a pas d'émotion. C'est du sérieux, c'est du professionnalisme. Si tu te laisses aller par tes émotions, c'est là que tu prends des cartons jaunes, c'est là que tu prends des cartons jaunes, c'est là que tu perds des journées. Quand tu es sur le terrain, quand tu bosses, il n'y a pas d'émotion.
Tu fais du pain.
T'es pas en train de faire des pains au chocolat à la boulangerie.
Il y a que les mecs en
quand tu rentres en UEFA,
les émotions, tu les gardes.
Tu vas demander aux Marseillais quand est-ce qu'ils ont vécu les plus belles émotions ces derniers temps et quel entraîneur. C'est avec Bielsa, ils ont fait quoi? Ils ont pris un championnat.
Non,
c'est
Rudy Garcia, finaliste d'Europa League.
Quand tu rentres sur le terrain, les émotions, faut pas que tu te laisses emporter par les émotions.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que là, ça peut devenir dangereux. Certes, tu peux être dans un moment d'euphorie.
Tu parles du professionnalisme du haut niveau. Il faut que tu saches qu'ils les ont déjà préparés. Si après t'as des genres de joueurs qui jouent avec la peur, Et après, mais faut que tu saches que c'est des joueurs qui sont formés à toute cette mentalité de pression. S'ils sont pas capables à un moment donné d'élever leur niveau au niveau psychologique, d'aller très haut, et c'est même pas la peine qu'ils fassent du foot.
Je sais pas,
après, tu regardes le Shakhtar, ils se font l'équipe nationale, elle se fait éliminer sur un vol au penalty. L'équipe nationale aujourd'hui, là, le Shakhtar, c'est quoi? C'est ce qui va sauver, ce qui va sauver le pays par rapport à ce qui se passe au niveau du sport. Aujourd'hui, ils sont encore, là.
Il y a un côté
politique dans la gestion du foot.
En tout cas, moi, je suis désolé, tous ceux qui allument leur télé, regardent un match de foot, quand tu vois les joueurs rentrer sur le terrain, ils ont des têtes de cyborgs, des têtes de robots. Ils ont
Il faut que tu saches que l'Ukraine, ils ont une qualité de joueurs.
Ah, mais je te crois.
C'est des super joueurs. Moi, ils m'ont même en 19 ans, je regarde l'équipe nationale de 19, je veux te dire franchement, la qualité intrinsèque des joueurs, et ça a toujours été. Sachenko, ça a été un grand joueur quand je jouais au Milan. C'était à l'époque du grand Milan.
Shevchenko.
Ouais, bah oui.
Il travaille bien. Après,
quand je te parle de grands joueurs, ils ont eu des grands joueurs. C'est quand même un pays de football.
Pour Marseille,
vrai pays de football quand même.
Pour Marseille, il y aurait une question à se poser, c'est qu'arrivant au mois de janvier, il y a la Coupe d'Afrique.
C'est ça.
Et je pense qu'ils ont pas mal d'Africains dans leur effectif, l'Olympique de Marseille.
Il y en a beaucoup.
Et là, je pense qu'il faudra vraiment, vraiment,
sur des recrues.
Non, sur des recrues, parce que juste perdre Kondogbia, perdre Harry, Tounahi, si jamais en plus, j'espère pour le Maroc, en tout cas qu'ils iront loin en Coupe d'Afrique, ils vont peut-être les récupérer. Récupérer très, très tard, Ndiaye aussi, Kondogbia,
Aubameyang.
Ça en fait.
Ça va leur faire mal, hein.
Vraiment.
Ils vont perdre Coupe d'Afrique avec, surtout Amin Harit, qui est le joueur offensif clé de l'équipe, là, quand tu perds un joueur comme ça, j'espère dans leur recrutement, ils ont prévu de ramener un joueur
C'est Marseille a prévu. On verra bien.
Je pense qu'ils ont prévu leur course. Ouais. Mais tout à l'heure, pour revenir, parce que j'expliquais sur l'émotion, Solal m'a fait l'émotion, perdre l'émotion, pas l'émotion. Ouais. Je parle d'émotion intérieure, bien sûr.
Bien sûr.
Parce que j'ai un côté spirituel, je fais du yoga, tout ça.
C'est bien le yoga.
Je pense qu'il faut savoir gérer, canaliser son émotion. Et quand l'émotion, on arrive à la gérer, il peut se passer quelque chose.
Et ben voilà.
Comme dit Chrissy, aucune émotion.
Le dernier dossier de cette émission. On y va.
Time Sport, le mode pressing.
Je sais pas pourquoi tu dis ça. Hein. Vraiment. Hein.
Aucune émotion.
Ouais, tu t'es cru dans Hit, toi, avec Robert De Niro et Al Pacino. Y a pas de problème. Guardiola qui envoie un message très clair, justement, à ses supporters. Les supporters de Manchester City, mais aussi on a pu l'apercevoir hier, freiné par Crystal Palace, là aussi. Tariq, deux buts partout hier après-midi. Manchester City, justement, à la peine. Selon les détracteurs, certains observateurs du football, mais pas que aussi. Les bookmakers britanniques, là aussi, ça fait effet, Soufiane.
Après, c'est il y a un joueur qui est parti qui était exceptionnel aujourd'hui. Que l'année dernière c'est Riyad Mahrez. Ils ont perdu un gros joueur aujourd'hui.
Il n'est pas titulaire, Boula.
Qu'est-ce qu'on raconte?
Regarde ses stats.
Ouais, toi, c'est parce qu'il est dorant, c'est pour ça que.
Mais quand même, Soufiane, réaction.
Non, moi, je pense ils ont fait quelque chose l'année dernière qui est fou. Ils ont gagné les championnats d'Angleterre, Coupe d'Angleterre, Champions League.
Ouais.
Et je pense que là, c'est un petit peu la redescente. On les attend à un niveau. Et je pense qu'il faut, au mercato, il faut recruter 2-3 joueurs pour apporter un peu du sang vif, de la nouveauté. Et je pense que Guardiola, je m'en fais pas pour lui, parce que quand même, il a un effectif qui est costaud encore.
Oui,
très costaud. Après, il y a la blessure.
Il n'a pas qu'un effectif.
De Bruyne. Moi, je trouve que quand il n'y a plus De Bruyne, tu prends Mahrez et le Erdo, comment il s'appelle l'autre qui est parti à Barcelone?
Gundogan.
Quand tu perds ces 3 joueurs-là aujourd'hui, ils sont blessés.
T'as gardé Bernardo Silva.
Ouais, tu parles.
Après,
Mahrez est au-dessus.
Je suis moyen d'accord. C'était la fin d'un cycle, on l'a dit. Hein, C'était la fin en apothéose.
Il n'y a pas de fin d'un cycle. Il a une proposition qui ne pouvait pas dire non. C'était pas la fin d'un cycle.
Non, mais c'est pas la question. Moi, je dis que
Manchester City était arrivé à la fin d'un cycle avec la victoire en Ligue des Champions. Je l'ai dit même ici à ce micro-là, je disais que justement, moi, je les sentais après cela comme une descente, en fait, parce que ça fait déjà des années qu'ils sont en haut de l'affiche en première ligue, qu'ils ont fait des gros trucs, et là, ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il y a un relâchement général au sein de l'effectif, et que aujourd'hui, malheureusement, ouais, ben, ils ont tout gagné, donc ils ont plus rien à prouver, et ils ont ce sentiment-là. Et malheureusement, ça, dans le football, ça paye, ça se paye cash, quoi. C'est après, quand t'as plus cette niaque là, c'est
pour un moment.
On l'a vu pour Liverpool aussi.
Je vous trouve dur quand même quand vous employez des mots fin d'un cycle, etc.
Même moi,
je trouve que c'est un coup de moins bien. Moi, leur problème, je le trouve surtout défensivement. Parce que moi, par exemple, là en ce moment, il est blessé, mais Jérémy Doku, je ne me serais jamais attendu à ce qu'il soit aussi performant, aussi rapidement. Ils vont récupérer un De Bruyne. Tu as eu aussi l'absence avec la suspension de Rodri qui a fait qu'ils ont perdu des points.
Je fais bien de le rappeler.
Mais ils ont toujours une petite période comme ça, Manchester City. Et je pense que arriver au mois de janvier ou arriver au Money Time, au Boxing Day, ils sont toujours présents et ils font toujours des finishes de malades. On a souvent eu, y a eu le mano à mano avec Liverpool et ils ont fini gagnant. Là, encore une fois, ils ont une chance, mais de fou, à tirer Copenhague en Ligue des Champions. On a l'impression que eux, c'est fait pour eux. Tous les petits clubs, ils les tirent à chaque fois en huitième, en quart de finale. Ils ont de la chance. Et moi, quand je vous entends dire que c'est une fin de cycle, non, c'est pas possible.
Moi, je pense pas.
Mais par contre, il faut pas oublier quelque chose. C'est que c'est un club. C'est un club qui découvre, non, mais qui commence à découvrir, pas le haut niveau, mais je veux dire à découvrir les titres d'affilée comme ils ont fait. Et je pense qu'ils n'ont pas l'expérience comme le Real de Madrid d'assumer l'année d'après. Parce que c'est un club jeune encore au haut niveau. Et c'est Guardiola qui a ramené cette culture-là. Déjà, il y avait un travail qui était fait en amont avec les Saoudiens qui ont atterri.
C'est les Émirats
qui sont là-bas. Et donc, il y avait déjà eu un travail, mais là, ils sont arrivés vraiment au summum, tout simplement, du haut niveau. Et je pense que là, ils sont en train d'apprendre ce que c'est de gagner, de tout gagner et de repartir pour re-tout gagner. Et il y en a qu'un seul pour moi qui peut le faire.
Oui.
C'est le Real de Madrid. Il y en a deux aussi. Et peut-être le Bayern de Munich.
Ouais. Mais l'intelligence
du Real de Madrid, c'est qu'ils ont récupéré. Le problème, c'est que quand Cristiano Ronaldo est parti, il y avait Benzema derrière. Benzema, il part. Il y a qui arrive? Bellingham. Et quand tu recrutes, quand tu cibles des joueurs, mais c'est ça qui fait la classe des c'est comme le Real qui se sépare du défenseur qui est parti du Real à United. Aujourd'hui, quand tu regardes United, quand ils font venir des joueurs, c'est des joueurs moyens. C'est pas des joueurs de classe mondiale. Quand tu fais venir Bellingham au Real, c'est classe mondiale. Aujourd'hui, City, ils ont pas fait un recrutement sur les joueurs qu'ils ont perdus. Et quand tu remplaces pas ces joueurs-là, automatiquement, tu te retrouves à un moment donné dans des situations sportives qui peut pas à un moment donné. Le problème, c'est que de gérer un club, c'est un métier. Et le Real, eux, ils ont cette culture de savoir aller chercher les joueurs qu'il faut.
Tu perds Mahrez. Après, je compare pas du tout les deux joueurs. Tu perds Mahrez et tu récupères un Doku qui te fait un début de saison stratosphérique. La saison dernière, il recrute un Grealish qui te fait une saison de malade. Moi, je trouve,
aussi.
Au contraire, ils sont très intelligents dans le recrutement. Et s'il y a vraiment une spécialité qu'il faut ressortir de Manchester City,
alors, c'est quoi?
Comme Akanji,
tu parles de Doku, tu parles de Grealish, je te parle pas de Doku et de Grealish.
Non, mais ils ont perdu Mahrez.
Déjà, quand tu fais partir des joueurs, dis-moi le mec qui peut remplacer en classe mondiale Mahrez. Ils manquent cette finesse de talent pour remplacer.
Quand je vois
Aston Villa qui ont été chercher Diaby, à 50 millions à Aston Villa.
Mais n'importe quoi.
Je te parle pas de les comparer. Je te parle de la classe de leur façon de travailler.
On termine rapidement.
Moi, je sais pas si on se plaint du recrutement de City, qui aurait imaginé un John Stones à ce niveau-là, qui aurait imaginé un Ruben Dias à ce niveau-là, qui aurait imaginé Akanji, le mec qui Mais qui, il est arrivé pour combien? Il est arrivé pour combien? C'est devenu un top défenseur. Guardiola, il a un pouvoir. Il rend des, il, en fait, il bonifie les joueurs et on se rend pas compte de, du travail et de la recherche des profils qu'ils ont.
Solal, on termine avec toi. Avant une dernière info, il faut pas l'oublier celle-là.
Ça, parce qu'on parle beaucoup de ces bulldozers que sont le Real, le Bayern, Manchester City. En effet, vous avez tout à fait raison. C'est des clubs qui ont donc un gros potentiel sur les prochaines années. Mais moi, là, on est quoi? On est le 18 décembre, il est 20h50. Je pense honnêtement qu'on aura, si donc ils ne s'affrontent pas avant dans la compétition, en finale de Ligue des Champions, Napoli contre l'Atlético Madrid. Je vois beaucoup ces deux clubs-là, justement, sur Paris.
Moi, je vois l'Atlético Madrid, je le vois aller.
On voit beaucoup ces clubs-là. En tout cas, les Colchoneros font tant plaisir à cela.
Je veux dire, ils ont tout fait pour le
carré de Ligue des Champions. Il y a des féminin de handball, il faut le rappeler, l'équipe de France.
Le tirage, comment il a été fait.
Et sur le toit du monde, Boula. Et oui, les filles sont venues à bout des Norvégiennes lors de cette fameuse finale du mondial. Féminin de handball, on rappelle le score 31-28. Ce dimanche 17 décembre, et c'est vrai que les Françaises ont remporté donc leur troisième titre mondial, ce n'est pas rien, et prennent leur revanche sur les fameuses Norvégiennes après leur cruelle défaite, on le rappelle, de 2021. Voilà, ça c'est pour le petit gros big up.
Ou chez les femmes, ça reste quand même des, ça reste quand même des compétiteurs de, tu vois. Sport,
bravo les filles.
Le numéro 1, c'est, on peut dire tout ce qu'il y a, c'est le sport numéro 1, parce que la, je veux dire, la qualité qu'ils ont eu au hand homme et en femme aujourd'hui, quand tu les, quand tu regardes les résultats. Aujourd'hui, la ministre des Sports a peut être contente d'avoir un sport qui marche très très bien, et surtout, c'est pas les autres disciplines où il y a peut-être pas les moyens qu'il y a après l'arrivée du Qatar au PSG.
Bon, mais là, en tout cas, ça a toujours bien marché, bien avant l'arrivée du Qatar dans le handball. Ça, je tiens à le rappeler. Oui, vraiment, 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 bien avant. En tout cas, un grand bravo aux filles, justement, de cette fameuse équipe de France championne du monde. Faut le rappeler. Voilà. Nous, on vous laisse en compagnie de Vanessa qui arrive, 21h-23h, et on se retrouve dès demain. Bye bye.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.